Pourquoi avoir choisi pour votre dernier spectacle de poser sur le plateau des animaux vivants, en l'occurrence deux hiboux grand-ducs?
Alors le moment en fait où mon chemin d'auteur a croisé des animaux vivants pour la première fois remonte à déjà quelques années parce que j'ai travaillé avec le Théâtre du Centaure en France, à Marseille, où la compagnie est installée depuis plusieurs années. Le Théâtre du Centaure travaille avec des chevaux et avec un âne, un baudet du Poitou. C'est une compagnie qui est dirigée par un couple, un garçon et une fille, Camille et Manolo. Et il y a quelques années, on s'est rencontrés à l'occasion d'un atelier d'écriture auquel ils ont participé, que j'animais. On s'est retrouvés un peu plus tard et ils m'ont passé commande d'un texte qui était un monologue pour un centaure, ça veut dire pour un acteur piéton, tel qu'ils le définissent, et pour le coco, qui était donc ce baudet du Poitou. Donc j'ai passé pas mal de temps en fait sur le site au milieu des chevaux et en compagnie aussi de cet âne à écrire alors pas au plateau hein, mais dans le manège et au cœur du travail quotidien de la compagnie avec leurs animaux. On a fait un deuxième spectacle hein, suite à ce premier travail avec le baudet qui s'appelait Auto-Vite. Un deuxième spectacle plus déambulatoire, plus fragmentaire qui s'appelait Flux. C'est beaucoup en travaillant avec eux et voilà, partageant leurs questionnements et puis en les observant aussi que je me suis mis moi à m'intéresser au fond ce désir de fonder ce qu'on peut appeler une communauté hybride. C'est-à-dire un collectif artistique qui n'exclut pas l'animal, je dirais même davantage, c'est-à-dire qui repose et qui se consolide, qui se fonde sur sa présence. Moi, ça a été des années de travail très riches avec le Théâtre du Centaure. Et quand j'ai commencé à réfléchir à l'écriture de la pièce, du hibou Le Vent et nous, assez rapidement, j'ai eu l'envie d'éprouver à nouveau cette sensation-là d'une réunion voilà, d'êtres humains qui considèrent pleinement l'animal comme un partenaire de jeu. Donc toute la fiction s'est constituée autour de la présence de l'oiseau. Il y a donc beaucoup de mes pièces, voilà, il y a des oiseaux qui passent. Alors c'est une obsession. Mais parce que la charge symbolique aussi de l'oiseau est poétiquement une chose qui m'importe. Dès lors que la pièce a été écrite, je me suis mis en quête de quelqu'un qui puisse voilà, répondre à ce besoin d'avoir sur le plateau la présence d'un oiseau vivant, d'un hibou en l'occurrence. Et j'ai fait la connaissance d'Alexandre Thévenin, qui est fauconnier. Qui partage sa vie avec des hiboux et qui a rejoint l'équipe pour que ce rêve soit possible. Moi, c'est dans le spectacle, ce qui m'intéressait vraiment, c'est que le moment où le fantastique éclate, c'est que ce moment-là soit comme validé par la présence réelle de l'animal vivant. C'était ça, peut-être le premier enjeu.
Un animal vivant sur le plateau, c'est plus de réel dans une pièce de théâtre où tout pourrait être artifice, où c'est apporté une sorte de regain de fascination, parce que c'est clair que dès que l'oiseau apparaît, il n'y a plus que lui, grosso modo.
Bien sûr, je n'oppose pas les deux éléments d'ailleurs. C'est bien sûr que l'oiseau est là aussi comme un élément de fascination, comme un imaginaire à lui seul en fait, et puis aussi comme un élément déstabilisant dans la représentation. Et moi, je crois une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que Alexandre en parlera mieux que moi, mais on n'apprivoise pas un hibou, ça reste un oiseau sauvage. Et j'aime beaucoup cette idée-là qu'à la fin, il y a un élément qui puisse être un élément perturbateur de la représentation, et il l'est régulièrement. Et je ne pense pas que ça fasse vaciller toute la représentation, mais disons que dans l'instant où il est présent, à la fin du spectacle, je dois dire que j'aime le vertige, et parce que la pièce parle de ça aussi, c'est-à-dire d'une vérité comme ça qu'on qu'on chercherait dans sa vie et qui passerait par le vertige, le déséquilibre. Je crois que la présence de l'oiseau, pour moi, elle évoque aussi cette tension-là, qui est peut-être la tension aussi de tout artiste vers l'œuvre qu'il produit. C'est-à-dire qu'on, voilà, on est au fond, peut-être qu'on devient artiste parce qu'on se sent en situation de porte-à-faux permanente vis-à-vis de sa propre existence et qu'il y a un endroit où la vie n'est pas suffisante, tout simplement.
Alexandre Thévenin, alors j'ai bien compris, on ne dresse pas un hibou qui par ailleurs ne joue pas sur un plateau, il n'est pas comédien. Alors comment fait-on pour que cet animal s'intègre dans une équipe d'êtres humains ?
Il faut du temps, voilà, il faut du temps. Ça reste un animal sauvage, effectivement, le hibou grand-duc. Moi, avant d'arriver à Genève et avant de travailler avec Fabrice Melchiot, j'ai passé des heures à d'abord imprégner mes oiseaux, à les habituer à voler devant du public. Mes oiseaux volent en intérieur, en extérieur, le jour, la nuit. Et il faut voir tout ce travail-là comme un ensemble. C'est-à-dire qu'il faut autant habituer les hiboux aux comédiens et aux acrobates avant de les mettre en présence du public. Voilà, c'est-à-dire que tout le travail de création de Fabrice inclut le hibou exactement comme un animal qui doit prendre le territoire. Voilà, le hibou grand-duc est un animal territorial. Pour lui, le théâtre devient son théâtre. Et il a fallu habituer les humains avec les animaux avec les humains. Et ce projet n'aurait pas pu se faire sans ma rencontre avec Fabrice, avec ce texte d'abord, et avec cette volonté très claire depuis le début de la part de Fabrice de vouloir mettre le hibou grand-duc comme un élément de déséquilibre en tout cas. C'est-à-dire que c'est un oiseau qui est impressionnant, qui est charismatique, qui, à mon sens, s'intègre parfaitement dans ce texte-là, dans ce travail-là. Et donc le travail que j'ai fait d'abord avec Fabrice, c'est d'essayer de répondre à ses besoins, lui, d'artiste, en tant qu'animalier, c'est-à-dire de dire non quand c'est pas possible et de dire oui. La grande chance que j'ai, c'est que j'ai un metteur en scène en face de moi qui est parfaitement à l'écoute, qui a parfaitement bien compris. Notre première rencontre, Fabrice, je sais pas si tu te souviens, était également dans cet onirisme et dans ce mystère. Moi, j'ai rencontré Fabrice la nuit, on est allé voir mes hiboux, je lui ai fait voler un hibou la nuit, et moi, je me rencontre un peu des humains à la réaction de mes oiseaux. Et moi, mes hiboux, ils ont rencontré Fabrice Melchiot indépendamment de moi. C'est-à-dire que je lui ai dit, je trouve qu'il ressemble à un hibou, il a quelque chose d'un hibou. Il n'a pas les yeux, mais... Non, mais je blague pas, je suis très sérieux en disant ça. Voilà, d'abord, ces textes parlent, à mon sens déjà, magnifiquement, des oiseaux et des hiboux. C'est quelqu'un qui connaît la nature, c'est quelqu'un qui connaît les hiboux, il connaît la montagne. Donc ce n'est pas innocemment non plus qu'il choisit cet oiseau qui est le roi de la nuit, hein. Et donc ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a un lien entre mes hiboux et Fabrice Melchiot, même indépendamment de moi. Donc à partir de là, les choses, elles se font plutôt naturellement.
Et vos hiboux, oiseaux de nuit, se retrouvent dans un théâtre où à la fin du spectacle, on rallume les lumières et 300, 400, je ne sais plus, spectateurs se mettent à applaudir et à regarder le hibou droit dans les yeux. Mmh. Ça lui fait quoi, ça ?
Alors, c'est le hibou qui regarde les spectateurs dans les yeux. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, les Indiens disaient que le hibou est le seul oiseau à pouvoir soutenir le regard du soleil sans cligner des yeux. Et c'est vrai. C'est un travail. Voilà, ça aussi, c'est un travail. Moi, mes oiseaux étant imprégnés de l'image de l'homme, hein, ce sont des oiseaux qui viennent de captivité, ils ne viennent pas de la nature. Donc, depuis leur plus jeune âge, ils sont habitués au plateau, ils sont habitués au bruit. Et à partir du moment où leur dresseur, leur fauconnier n'est pas loin, les rassure, les tient, les nourrit sur place, il peut y avoir des applaudissements, il peut y avoir du bruit, mais les choses ne se font pas du jour au lendemain. Voilà, il a fallu habituer les oiseaux, encore une fois, au plateau, au bruit, aux enfants. Alors après, moi, j'interviens beaucoup en milieu scolaire avec mes oiseaux en France. Donc ce sont des animaux qui ont l'habitude du mouvement, des classes, du bruit de la classe. Donc c'est aussi pour ça que ça se passe plutôt bien sur une scène.
Fabrice Melchiot, le hibou est un rapace, un prédateur. Dès qu'il apparaît sur la scène du théâtre Amstramgram, est-ce qu'il n'a pas éventuellement gobé tout cru et votre texte et les acteurs du plateau qui sont des êtres humains ?
Bien sûr, c'est l'un des dangers, et c'est pour ça que je ne souhaitais pas en fait qu'il traverse la pièce de manière régulière. C'est-à-dire qu'il intervient effectivement dans les derniers instants de la pièce. C'est-à-dire que je sais hein, qu'il y a une possible rivalité difficile à endurer pour les acteurs dès lors qu'un animal, quel qu'il soit, se retrouve sur un plateau à côté d'eux. Justement, c'est-à-dire qu'on cherche chaque jour, en fait, la précision, en fait, de cette proximité, de cette friction-là, c'est-à-dire entre, oui, la fascination, l'attirance de l'assistance pour la présence de l'oiseau, et puis le déploiement du texte, quoi. Donc c'est là aussi un travail de chaque jour, mais je crois vraiment que le jeu en vaut la chandelle, et puis. Toute la pièce parle de ça, au fond. C'est-à-dire de ce point de rencontre ou de séparation entre l'animalité et l'humanité. Ce que la pièce cherche à affirmer, c'est que moi j'ai du mal à me penser en tant qu'homme sans me penser d'abord en tant que mammifère. Que c'est une chose qui a à voir avec l'enfance aussi. Voilà, je crois que c'est l'endroit peut-être où ça vient toucher là ma propre biographie. C'est-à-dire que je crois que quand on devient père, on est pendant quelques mois en tout cas, pas seulement reconvoqué à son enfance, mais avant ça, c'est-à-dire qu'on est, en tout cas ça a été ma sensation, on est vraiment reconvoqué à son animalité. C'est-à-dire qu'on a à réapprendre à vivre, à partager l'espace domestique avec un enfant qui, pendant les premiers mois de sa vie, était pour moi comme une sorte d'animal sauvage. Et puis, je crois que ça, on travaille aussi, quand on est intéressé par l'enfance et la jeunesse, et qu'on essaie de ne pas considérer le destinataire dans le temps où l'on élabore l'œuvre artistique, hein, mais c'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour les enfants, mais plutôt à partir de sa propre enfance ou de sa jeunesse. C'est-à-dire qu'évidemment que le spectacle est motivé par ma propre mémoire de spectateur aussi de théâtre. C'est-à-dire que je sais que quand j'étais plus jeune, j'ai été extrêmement troublé par les représentations d'Olivier Périer, par exemple, avec Bibi Latruy sur le plateau. J'ai des souvenirs très très forts de certaines représentations. Je me souviens au Théâtre de la Commune.
Un cochon qui a fait une carrière avec lui.
Un cochon, plusieurs même, plusieurs. Il y a eu plusieurs Bibi. Mais avec vraiment des images très très puissantes. Et puis la volière de Romesco autrement, avec ce marabout qui est devenu la mascotte de la compagnie, avec ses oiseaux. Voilà, je crois que c'est aussi. Là, l'endroit où ma mémoire de spectateur de théâtre rejaillit là dans cet attrait, tout simplement, pour la présence de l'animal vivant sur le plateau.
Du point de vue du fauconnier et du point de vue du metteur en scène, quelle est la part de risque qu'amène la présence d'un animal sauvage sur un plateau de théâtre? Vous d'abord.
La part de risque d'un point de vue artistique, vous voulez dire?
De votre point de vue, qu'est-ce qui pourrait ne pas se passer ou se passer?
Alors, moi, ma première et seule règle et unique règle, c'est la sécurité de mes oiseaux. Voilà. À partir du moment où l'oiseau est pas en danger, voilà, on peut tout faire. Le risque pour les gens, il n'y en a pas. À partir du moment où vous ne nourrissez pas l'oiseau, il n'y a aucune chance qu'il vienne se poser sur votre tête ou voilà. Donc, ça peut arriver hein, que le vol, ce sont des animaux vivants, on est dépendant de leur bon vouloir, que le vol ne fonctionne pas comme on le veut. Voilà, ben on est là, on a des sécurités, on récupère l'oiseau, mais en tout état de cause, le hibou n'est pas un animal ni dangereux ni méchant. Voilà, on peut pas lui prêter ces intentions-là. Après, d'un point de vue artistique, j'aurais du mal à répondre à ça. Je trouve que c'est un animal charismatique, en tout cas, effectivement. Pour répondre à votre question, en tout cas, enfin, à la question que vous posiez à Fabrice Melchiot, je trouve que le risque, il est énorme, effectivement, que l'oiseau bouffe les comédiens hein, par sa présence, par son charisme. Après, moi, je sais que sur le hibou, le vent et nous, la cohabitation, en tout cas, de mon métier, entre les comédiens et le hibou se passe merveilleusement bien.
Pas de prise de bec.
Non, il n'y a pas de prise de bec, effectivement. Et après, c'est ma vision des coulisses, hein, mais c'est vrai qu'il y a même un jeu entre le hibou et les comédiens. Et les deux cohabitent de mieux en mieux au fil des représentations. Et c'est, alors, c'est très difficile de faire de l'anthropomorphisme, on peut pas, mais en tout cas, il y a aussi un lien, et c'est très agréable pour moi, Fauconnier, de voir que les choses m'échappent un petit peu. Et sur cette scène finale, avec le hibou présent avec les comédiens, les choses deviennent de plus en plus les leurs. Voilà, et ça, c'est bien, c'est beau.
Et pour vous, Fabrice Melchiot, quelle est la part de risque comme metteur en scène avec cet animal sur le plateau ?
J'ai pas le sentiment que le terrain soit plus risqué qu'avec un comédien, finalement. C'est-à-dire que il y a une fragilité des présences sur un plateau de théâtre. Un comédien, c'est aussi une sorte d'animal fragile. C'est pas une machine réglée.
On citera pas de nom.
C'est pas une marionnette qui tient à des fils et qu'on. Non, c'est voilà. Je fais pas vraiment de différence. J'ai pas l'impression que le terrain est plus risqué avec Ayalas ou Gibral qu'avec François Nadin, Nicolas Rossier, Dominique Gubser, Julie Taver ou Damien Drouin pour les citer. J'ai face à moi des êtres vivants. Je fais tout à fait la différence entre les capacités d'un oiseau et celles d'un être humain. Mais je crois qu'on est face à oui, au fond, des éléments du vivant, et que le vivant, c'est toujours le lieu du risque, de toute façon, et au théâtre, peut-être encore plus, parce qu'on propose des transpositions du vivant, c'est-à-dire on met en évidence les mécanismes qui régissent le fonctionnement de la vie, et la vie qui nous intéresse, c'est celle qui est un peu risquée, aventureuse, fragile, difficile.
Une toute dernière question à vous deux. Au buffet qui a suivi le spectacle de la première, qu'est-ce qu'ont mangé tous les comédiens ? D'abord ceux à deux pattes.
Les trois hiboux qui accompagnent Alexandre sont toujours vivants.
Mais qu'ont-ils mangé, eux ?
Alors, mes hiboux mangent de la viande, ce sont des animaux carnivores. Ils mangent des. Alors, je donne soit de la viande blanche, soit de la viande rouge, selon l'apport calorique que je veux faire. Ce ne sont pas des bouts de spectateurs qui n'ont pas payé leur place.
Hein. Ça, ni des souris.
Non, voilà. Exactement.
C'est ce que certains spectateurs voulaient savoir autour de moi. Voilà. Merci beaucoup.
Merci.